Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Pendant une heure, tous les jours, pour vous informer sur les sujets de santé qui vous préoccupent, pour vous faire du bien, il est à mes côtés dans ce studio, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire, aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré aux relations parfois compliquées, voire tumultueuses entre frères et sœurs. Si chez vous, dans la fratrie de vos enfants, ça se dispute sans cesse, voire même ça se bagarre, et que vous ne savez plus quoi faire, cette émission est pour vous. Eh bien, pour en parler, surtout nous donner des conseils, des astuces pour des relations entre frangins plus sereines, nous recevrons la psychothérapeute Isabelle Filioza. Ensuite, nous sommes vendredi, et le vendredi, place à la beauté, avec la chronique de Benjamin Lévesque. Il va nous parler aujourd'hui des cernes, mais surtout des techniques esthétiques et cosmétiques qui permettent d'en finir avec les valises sous les yeux. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question de fantasmes sous la couette.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va commencer par la première question, c'est la question de Jean.
Une question pour le docteur Jimmy Mohamed. Mon épouse est atteinte de diabète type 2. Elle a des douleurs effroyables sous les pieds et on me dit qu'il n'y a aucun traitement. Est-ce que lui, par hasard, connaîtrait quelque chose ? Voilà, merci.
Jimmy, alors ce que décrit Jean dans sa question, ces douleurs au niveau des pieds de son épouse qui souffre de diabète, il précise, c'est malheureusement, je crois, quelque chose que vous connaissez bien, vous les médecins.
Oui, ça peut s'intégrer dans ce qu'on appelle la neuropathie diabétique. C'est l'atteinte des nerfs, en particulier du pied, liée au diabète. Le sucre va attaquer les nerfs et ça peut donner chez ces patients soit une anesthésie, c'est-à-dire que vous ne sentez pas lorsque vous avez une plaie, ou au contraire, des douleurs insupportables à titre de neuropathie, comme si vous aviez des décharges électriques.
Alors, ça évidemment, brûle au niveau des orteils,
exactement,
c'est ça?
Exactement, une sensation de brûlure, avec parfois cette sensation qui peut apparaître par le simple effleurement d'un drap qui peut donner des douleurs terribles. Et surtout que le traitement est problématique puisqu'il n'est pas très bien, bien codifié, pas très efficace.
On va y venir, mais vous disiez donc la neuropathie diabétique, est-ce que ça donne des symptômes d'ailleurs qu'au niveau des pieds ou est-ce que ça peut y avoir d'autres symptômes?
Et maintenant, quand on parle de neuropathie diabétique, c'est l'atteinte des nerfs, mais d'une façon générale.
Ah oui,
tous les organes
les pieds, ouais.
Ou presque peuvent être touchés. Ça peut être le tube digestif, ça commence avec l'estomac, ce qu'on appelle une gastroparésie. Vous avez un estomac qui est feignant, vous avez des ballonnements, des reflux. Vous pouvez être constipé ou au contraire avoir la diarrhée. Vous pouvez avoir la même chose au niveau du cœur. La neuropathie peut atteindre le cœur avec ce qu'on appelle une hypotension orthostatique. Vous avez des baisses de tension qui surviennent lorsque vous vous levez, responsable de malaise. Votre vessie peut être aussi touchée. Vous pouvez avoir une hypersensibilité. Et puis aussi, les organes génitaux, en tout cas chez l'homme, ça peut donner des dysfonctions érectiles, raison pour laquelle il faut s'en occuper avant que ça arrive.
D'accord. Et alors justement, est-ce que ça touche tous les diabétiques? Parce que vous parlez donc des neuropathies diabétiques comme si c'était quand même quelque chose de large. Tous les diabétiques sont concernés ou il faut être très sévère pour
non,
que ça nous
arrive?
Non, ça
touche principalement des personnes qui ont un vieux diabète qui est très mal équilibré.
Ah oui,
c'est pour ça qu'on est un peu exigeant. Ce n'est pas simplement pour dire il faut rentrer dans les clous, c'est qu'on sait qu'il y a un véritable impact sur votre santé. Et on sait que plus vous avez une glycémie élevée, plus vous avez un risque d'avoir cette neuropathie. Même chose si vous êtes en surpoids, si vous avez de l'hypertension, si vous fumez. Si vous avez beaucoup de cholestérol, en particulier des triglycérides, raison pour laquelle, eh ben, encore une fois, on vous embête avec tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire, puisqu'on sait que ça peut vous mener à cette neuropathie.
Dernière chose, vous l'avez dit, c'est compliqué, mais ça se traite de quelle façon, si on peut
faire
quelque
chose? Alors, le meilleur traitement, c'est la prévention. Raison pour laquelle, encore une fois, on vous demande de bien traiter votre diabète. Et donc, il faut absolument être dans les clous, ne pas faire l'autruche et se faire suivre normalement tous les 3 mois pour savoir si votre diabète est bien équilibré. Évidemment, si vous avez des douleurs, on pourra vous soulager avec des traitements à visée neuropathique. On ne vous donnera pas du paracétamol. On vous donnera une autre famille de médicaments qui peut avoir des effets secondaires. Et puis, lorsqu'on n'y arrive pas, il ne faut pas hésiter à avoir un médecin de la douleur, un spécialiste qui pourra vous permettre d'avoir une qualité de vie normale.
Merci beaucoup, Jimmy, pour cette réponse d'une précision vraiment rare. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est la question de Victor. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une petite question. J'aimerais savoir s'il y a vraiment un risque si on avale une arête. Et si oui, quels sont ces risques? Merci beaucoup et bonne journée.
Bon, Jimmy, question pratique. Hein, avaler une arête, c'est vrai que ça peut être l'angoisse quand on mange du poisson. Pour beaucoup de gens, est-ce que c'est vraiment dangereux d'avaler une petite arête?
Non, absolument pas. Enfin,
je dis une
pas
petite
dangereux.
Arête, mais si
même
c'est
une grosse arête. Ouais. Si jamais l'arête, que ce soit même, c'est valable aussi chez un enfant, ça en général ça inquiète un peu plus les enfants qui vont tout d'un coup
moi,
dire.
Moi, je trie le poisson pour mes enfants, mais d'une façon. On dirait presque que c'est pré-mâché tellement j'ai coupé.
Exactement.
Et coupé.
Mais il y en a toujours une qui se balade et souvent, bah, l'enfant va forcément l'avaler et dire j'ai avalé une arête. Alors,
moi,
pas
il y en a
panique.
Une dans une dent cet été.
Alors, ça, c'est un peu plus problématique, mais les histoires de la famille Gomez, à mon avis, sont plutôt intéressantes, mais on y reviendra pour la l'autre partie de l'émission.
Alors, si ça nous arrive.
Alors, si ça vous arrive, pas de panique. Si jamais ça a été avalé et que ça va dans l'estomac, il n'y a aucun risque que ça perfore l'estomac ou un tube digestif ou n'importe quoi. En revanche, si c'est coincé au niveau de la gorge, eh bien là, ça peut être problématique et il faut essayer de s'en débarrasser.
Alors, ma grand-mère, elle nous conseillait, puisqu'on parle de la famille Gomez, de manger de la mie de pain pour faire passer l'arête si il y en avait une un peu coincée dans la gorge. Est-ce que c'est... Dites pas de mal à ma grand-mère, attention. Hein.
Alors, d'une façon générale, ouais. Je n'aime pas les remèdes de grand-mère. Mais j'adore les grand-mères voilà. Et j'adore la vôtre. Mais ouais. Elle a raison, effectivement. La mie de pain qui va former avec de l'amidon, une forme de complexe un peu comme de la pâte à modeler, de la glu, va peut-être permettre d'absorber justement cette arête et de la le
faire évacuer. Donc pourquoi pas ? Elle n'avait pas tort, ma mamie.
Vous pouvez boire, mais ne faites pas des bains de bouche et surtout n'essayez pas de l'enlever avec vos doigts. En particulier, si elle est au fond de la gorge, vous allez juste provoquer un réflexe de nausée et vomir.
Ah bah,
et
au contraire, c'est-à-dire en vomissant, ça peut peut-être sortir. Non
bah, si elle est bien coincée, franchement, le vomissement n'aura aucun impact. Dans ces cas-là, buvez de l'eau, ça aura exactement le même effet que du vomissement en parlant.
On ne peut pas s'étouffer complètement avec une arête vraiment de façon très dangereuse.
Ça peut être plus problématique lorsque c'est des petits os de poulet, par exemple. Là, on peut faire des fausses routes. Et là, dans ces cas-là, votre enfant ne va pas simplement se plaindre d'avoir une arête, il va se mettre à tousser, il va être gêné. Dans ces cas-là, ne faites rien, respectez la toux de l'enfant. C'est un mécanisme de défense, il va l'évacuer. En revanche, s'il a avalé quelque chose d'un peu plus gros, il va peut-être être un peu plus gêné pour respirer. Et là, il faut faire la manœuvre d'Emlich et des compressions abdominales pour essayer d'expulser le corps étranger. Formez-vous aux gestes de premier secours. C'est la meilleure façon d'éviter des drames.
Très bien. Et puis, pour éviter tout ça, sinon, vous faites comme le docteur Jimmy Mohamed, vous mangez des poissons panés. Merci beaucoup, Jimmy. Si vous aussi, comme Victor, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité du jour pour le dossier du jour. C'est vous Isabelle Filioza, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, bonjour à tous et toutes.
Bien sûr, alors vous êtes psychothérapeute et l'auteur de nombreux ouvrages. Alors en rapport avec notre thème du jour, je cite celui-ci, Les Caliers Filioza, frères et sœurs, chez Nathan Éditions, un ouvrage pour les 5-12 ans. Alors Isabelle, on va parler des rapports aujourd'hui dans les fratries. Et justement, avant de créer une fratrie, du côté des parents, je veux dire, l'arrivée d'un frère ou d'une sœur, est-ce que c'est quelque chose qui se prépare avec le premier enfant ?
Oui, tout à fait, Mélanie, ça se prépare. Et en même temps, ne soyons pas, n'ayons pas des idées, on ne peut pas tout contrôler. Et donc, il est probable que même si c'est bien préparé, ça va quand même susciter un certain nombre de tensions et d'émotions pour l'aîné.
Est-ce qu'on lui pose quand même la question, franchement, c'est-à-dire dans le, par exemple dans le projet de grossesse, même lui dire, est-ce que tu aurais envie d'avoir un petit frère ou une petite sœur ? Parce que moi, j'avais déjà posé la question, on m'a répondu non. Donc c'est... du coup, voilà, on le fait quand ça. Même. Alors...
non, alors préparer ne signifie pas demander son avis à l'enfant. C'est clair que si on lui demande son avis, quelle que soit sa réponse d'ailleurs, qu'il dise oui ou qu'il dise non, ça n'a pas à rentrer en ligne de compte en fait. C'est nous, les adultes, qui choisissons d'avoir un deuxième enfant ou un troisième ou un quatrième. Et donc, ce n'est pas, c'est important que ce ne soit pas lui qui se dise « Ah, ben, c'est moi qui ai décidé » ou c'est « Ah ben, moi je voulais et puis maman, finalement, elle n'a pas voulu » ou « Je n'avais pas envie, maman l'a fait quand même », etc. On se sent trahi.
Jimmy ?
Oui, et puis c'est pas un paquet de gâteaux, veux-tu voilà, peu importe. Donc bon,
il n'a pas le choix.
Il n'a pas le choix, oui. Voilà.
Et, voilà. Mais est-ce les que grands choix, ce sont les adultes qui les font. Et les enfants, on écoute leurs émotions face à ce choix, mais on ne leur demande pas leur avis.
Mais est-ce que ça dépend peut-être aussi de l'âge de l'enfant ? Si vous avez un grand enfant de 10 ans, est-ce qu'on doit l'expliquer ? Je pense que oui, mais est-ce qu'un petit enfant de 2 ans, parfois, quand on a des grossesses rapprochées, on peut se dire, bon, il ne comprend pas grand-chose, de toute façon, ce n'est pas la peine de lui expliquer, ça passera, il verra quand le bébé sera là.
Même s'il n'a qu'un an, et on lui explique. C'est très important d'expliquer, parce que même si l'enfant ne comprend pas complètement, l'enfant se sent davantage en sécurité, simplement parce qu'on lui a parlé. Et puis nous aussi, si on n'a pas parlé à notre enfant, il a 2 ans, mais on ne lui a pas dit, donc on fait semblant, on est forcément un tout petit peu sous tension. Et l'enfant perçoit cette tension, et c'est ça qui pose problème. Donc, même s'il ne comprend pas, on lui parle, on lui explique, mais on lui demande toujours pas son avis.
Alors par exemple, est-ce qu'on peut l'amener, je sais pas, certains le font parfois, d'amener le petit dernier, alors ça dépend l'âge, hein, mais à une échographie pour voir que le petit frère, ça met une image sur ce petit frère ou cette petite sœur qui arrive, ou est-ce que ça, c'est pas nécessaire selon vous ?
C'est clairement pas nécessaire. Après, voilà.
Parce que de ne même pas comprendre ce qu'il voit vraiment à l'image, c'est pas... Ouais.
Le monde d'aujourd'hui est fait d'images et les enfants sont de plus en plus habitués à toutes sortes d'écrans. Mais justement, ce n'est peut-être pas la peine de commencer directement à voir le petit frère ou la petite sœur à travers un écran. Donc, ce qui est le plus important, après, c'est chacun fait les choix dans sa famille, mais ce qui est le plus important, c'est surtout de se mettre à l'écoute du vécu de l'enfant. Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi?
Jimmy.
Et puis une fois que le bébé est là, les grands frères ou les grandes sœurs passent peut-être tous par une période de jalousie, c'est normal, il faut l'accepter?
Oui, en fait, on appelle ça jalousie. La jalousie, c'est un sentiment qui est fait de plusieurs émotions. Et donc, c'est important de s'adresser à chaque émotion. Quand on a un petit frère, une petite sœur, eh bien, on était le seul dans la famille et tout d'un coup, c'est un autre qui requiert l'attention. Donc, on se sent forcément, il y a une perte d'attachement. Et quand on sent ça, eh bien, on se sent en détresse. Et donc, il y a une peur de ne plus être aimé
par les
qui
parents,
est là.
Oui.
Mais il y a aussi la honte. Et ça, on ne réalise pas. Parce que si mes parents ne s'occupent plus de moi, c'est que j'ai dû faire quelque chose de pas bien. C'est peut-être que moi, je suis quelqu'un de pas bien. Donc, il risque d'y avoir de la honte. Ensuite, c'est pas juste. Donc, il y a du dégoût aussi. Il y a de la tristesse parce que ce qu'on avait, on ne l'a plus. Donc, il y a toute une gamme d'émotions. Et quand l'enfant n'est pas entendu dans chacune de ses émotions, eh bien, ce qui se passe, c'est que du coup, ça fait un paquet qui devient jalousie. Et on va appeler ça jalousie. Et là, c'est encore plus culpabilisant. Puisqu'on pense que la jalousie, souvent, c'est pas bien. On nous raconte que c'est un vilain défaut.
Ah, mais c'est bien la jalousie pour Isabelle Fidioza,
C'est pas que c'est bien ou mal, c'est que c'est un sentiment qui est fait de différentes émotions.
Ah oui, d'accord.
Et donc, on ne peut pas supprimer la jalousie, on peut écouter les émotions, et si on écoute les émotions, alors la jalousie peut tomber. La jalousie est une construction dans laquelle on est enfermé. Un enfant qui est jaloux, il est enfermé dans sa jalousie et il se sent mal là-dedans. Personne n'aime être jaloux. Et donc, mais ça ne sert à rien de dire à un enfant « tu es jaloux » parce qu'il n'y peut rien. Par contre, lui dire « de quoi tu as peur ? Est-ce que ça t'arrive d'avoir peur que je ne t'aime plus ?» Là, on peut faire quelque chose.
Isabelle Fidioza, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui sur notre plateau, notre invitée c'est la psychothérapeute Isabelle Fidioza. Isabelle, justement, on parle aujourd'hui des frères et sœurs et de relations parfois compliquées entre eux. Un enfant qui, à l'inverse de ce qu'on vient de dire juste avant, ne réagirait pas du tout, est juste très content de l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Est-ce que ça cache quelque chose? Est-ce que là aussi il faut s'inquiéter?
Pas forcément, non. N'allons pas voir la petite bête là où il n'y a rien. Par contre, on est quand même attentif. Est-ce qu'il fait semblant? Est-ce qu'il cache parce qu'il aurait trop peur d'être exclu? Ou bien est-ce que c'est authentique? En fait, ça dépend vraiment du moment où ça arrive, de la qualité aussi de la relation entre les parents et l'enfant, de la disponibilité des deux parents avec les enfants. Donc tout ça, ça fait... À chaque fois, ça s'organise différemment et donc dans chaque famille, ça va se passer différemment.
Timmy ?
Est-ce qu'il y aurait justement des petits signaux qui pourraient nous dire « Ah tiens, il y a un problème avec l'aîné, je ne sais pas s'il se met à faire des bêtises, être agressif, c'est peut-être pas sans raison. »
Exactement, Jimmy. Il se met à faire des bêtises, il ne réussit plus très bien à l'école, on entend toutes sortes de remarques de la part de l'enseignant si jamais il est déjà à l'école, ou alors il dort mal. Il fait pipi au lit de nouveau.
J'allais dire, il y en a certains qui régressent. Même quand ils sont grands, 10 ans, 11 ans, ils ont un frère ou une sœur, ils se remettent à faire pipi au lit. Ça peut être un signe de quelque chose qui cloche par rapport au frère ou à la sœur.
Et en même temps, c'est important de ne pas se mettre dans cette idée « il régresse ». Nous, on le voit ça comme une régression, mais en réalité, c'est juste un signe de stress. Et donc, si je me dis « il régresse », je vais en vouloir à l'enfant et croire qu'il veut prendre la place du petit, etc. Je me mets à faire toutes sortes de constructions mentales. En fait, tout simplement, la vessie, surtout chez les petits garçons, n'est pas encore très... Enfin, les zones dans le cerveau ne sont pas encore très, très construites. Et donc, quand il y a un stress important, eh bien, il n'arrive plus à gérer sa vessie, tout simplement. Et donc, ça arrive. S'il y a une fragilité génétique, parce que souvent, ça vient sur une fragilité génétique, c'est pas n'importe quel enfant qui va faire pipi au lit. Donc, c'est tout un ensemble de facteurs qui vont se conjuguer. Mais c'est le stress, et donc, je m'adresse au stress en écoutant les émotions.
Jimmy.
On parle souvent des aînés, mais on oublie qu'il y a derrière un aîné parfois un cadet, l'enfant du milieu. On dit toujours que c'est la pire place. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs? Est-ce que c'est dur d'être un cadet?
Alors, c'est dur d'être à toutes les places.
C'est vrai qu'on dit toujours l'enfant du milieu, c'est difficile. Moi, ouais. Je l'ai entendu souvent.
Oui, oui.
Mais je suis l'aîné, donc ça va.
Ben, je suis une aînée aussi et c'est difficile.
Et aussi, je crois.
Ah oui, ben, l'élite, la crème de la crème, c'est ce qu'on dit, je crois, dans les manuels.
Une grande émission avec que des aînés aujourd'hui. Alors, Isabelle, l'enfant du milieu.
Oui, aucune position n'est complètement confortable. Ce qui est compliqué pour un enfant du milieu, c'est justement qu'il est au milieu. C'est-à-dire que ni il est l'aîné, parce que l'aîné, c'est quand même quelqu'un qu'on admire, c'est le premier, c'est chic d'être le premier. Le petit, bah, c'est le petit dernier, il a aussi toutes sortes d'avantages. Et donc, quand on est celui du milieu, on a l'impression de n'être ni l'un ni l'autre. Mais en réalité, quand on écoute les enfants, les aînés se plaignent de leur place, les petits se plaignent de leur place, ceux du milieu se plaignent de leur place. Bref, il y a des avantages et des inconvénients à chaque place. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que chaque place implique un vécu différent et va participer à modeler notre caractère.
Jimmy.
Est-ce qu'il faut donner exactement la même chose à tous les enfants? Parce qu'on veut souvent être tous égaux, l'égalité. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on peut vraiment donner autant d'amour, autant de temps, autant de cadeaux à tout le monde?
Bah, clairement pas.
Soyons honnêtes.
Ne cherchons. Bah, voilà.
On va
il
pas
faut
se mentir. Rester, hein,
exactement, restons sur terre. Et donc, c'est pour ça que c'est très important quand un enfant nous dit maman, papa, tu m'aimes plus. C'est au lieu de lui dire mais si, je t'aime, je vous aime, mais tu aimes plus mon frère. Non, je vous aime tous pareil. On peut avoir cette
tentation. On l'a tous dit, je crois.
Voilà. Mais c'est faux. Et donc, du coup, l'enfant. Voilà, parce qu'il y a pas, comme on vient de le dire, c'est pas réaliste. Hein. Du coup, l'enfant, il doute. Hein. Oui. Il se dit, ben, s'il me dit ça, c'est que vraiment, il m'aime plus beaucoup. Donc, c'est vraiment important de dire, qu'est-ce qui te fait dire ça? À quoi tu vois ça? Qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Et lui dire, ce qui est vrai, c'est que j'ai moins de temps. Parce que ça, c'est vrai, ouais, quoi. C'est... Et donc, arrêtons de mentir. C'est vrai, on passe moins de temps avec lui. On le regarde plus, mais on l'a moins dans les bras. Bien Il y a sûr. Plein de choses qui ont changé. Oui. Et donc, oui, c'est vrai. L'arrivée de ton petit frère ou de ta petite sœur, elle a vraiment bouleversé les choses. Et donc, par contre, j'ai pas du tout envie que tu aies l'impression que je t'aime moins. Alors, la prochaine fois que tu auras l'impression dans ton cœur que je t'aime moins, eh bien, tu me fais un signe. Quel signe tu me ferais?
Un petit code.
Et là, on décide d'un code ensemble.
C'est chouette, ça.
Et une fois que l'enfant fait le code, alors là, par contre, on lui donne ce qu'il demande. Et donc, là aussi, on codifie. Qu'est-ce que tu veux que je te demande, je te donne à ce moment-là? Est-ce que c'est un sourire? Est-ce que c'est un clin d'œil? Est-ce que c'est un bisou, un câlin? Qu'est-ce qui fait que tu te sentiras rempli et que tu auras vraiment l'impression que je t'aime fort, fort, fort?
J'adore cette histoire de code. Merci Isabelle Fugliosa. On va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité. C'est vous Isabelle Fugliosa. Vous êtes psychothérapeute et avec vous cet après-midi, on parle des relations compliquées parfois entre frères et sœurs. Alors justement, sujet compliqué, les disputes entre frangins. Les parents qui ont plusieurs enfants doivent souvent vous poser la question, j'en suis sûre. Pourquoi ils aiment autant se chicaner?
Ah, c'est pas forcément qu'ils aiment se chicaner, mais d'une part, ils en ont besoin. Quand on voit des petits chiots, une portée de chiots, une portée de petits chatons, eh bien, ils se disputent aussi, ils se mordillent, ils se battent. Et donc, il y a toute une partie de l'expérience de la fratrie qui consiste à ça, c'est s'entraîner à la bagarre. Et plus on peut s'entraîner à la bagarre à l'intérieur de la fratrie, c'est-à-dire en situation de sécurité, plus on va ensuite pouvoir avoir... mesurer nos forces, parce que en fait c'est très important. Quand on ne peut pas assez jouer à la bagarre, on ne peut pas mesurer sa force et savoir à quel point on risque de faire mal.
Bah chez vous, Jimmy, en fait, c'est une histoire de petits chiots. Ça se dispute pour ça se bagarre.
Là, c'est plus des petits chiots, c'est des pitbulls que j'ai à la maison. Bon, excusez-moi, parce que la bagarre, ça va deux minutes, mais quand c'est non-stop et que du matin au soir, ils se cherchent. Et nous, les parents, on agit comme des gendarmes. On fait la police, on est l'ONU, on cherche à chaque fois à savoir qui a déclenché le conflit.
Alors,
pour savoir
ça,
qui on
ça
va
sert
punir.
À rien. Surtout punir, parce que là, on augmente la bagarre. C'est-à-dire qu'il y a une saine bagarre, et puis il y a les bagarres qui sont chargées de haine. Donc là, on a besoin d'observer, nous, est-ce qu'il y a de la haine? Est-ce qu'il y a vraiment une intention de faire mal à l'autre? À ce moment-là, on intervient, parce que ça veut dire qu'il y a des sentiments, il y a des émotions qui n'ont pas été entendues, il y a des peurs, il y a de la détresse, il y a des sentiments de ne pas être aimé et compagnie. Donc, on va s'occuper de ça. Mais sinon, plutôt que de jouer le gendarme, eh bien, on va jouer le coach. Vous voulez vous bagarrer ? Ok, mais on met un ring. Donc, on décide ensemble. Alors, qui se bagarre là ? Vous êtes deux, vous êtes trois. Est-ce que c'est une bagarre à deux, une bagarre à trois ? Et comment ? Quelles sont les règles de votre bagarre ? Et on peut dire, bon, alors, il y en a un qui prend le chronomètre et pendant 2 minutes, une bagarre. Et on voit qui gagne, et ensuite c'est l'autre, etc. C'est-à-dire qu'on va organiser les bagarres. Ben, l'avantage, c'est que quand c'est cadré, les enfants adorent les règles et ils ont besoin de se bagarrer.
Donc bagarrez-vous, mais ne vous faites pas mal, quoi, en gros, hein, c'est ça ?
Globalement, ouais. C'est ça. Après, ce n'est pas nous qui disons « ne vous faites pas mal », parce que ça, ils ne vont pas forcément respecter. C'est eux qui vont dire « quelles sont vos règles ?» Comme ça, on leur enseigne à se bagarrer sans violence.
Donc, inutile de vouloir chercher à savoir absolument qui a commencé le premier, parce que quand il y en a un qui pleure, il m'a mis une claque, mais il m'a mis une claque parce qu'il m'a mordu, mais il m'a mordu parce qu'il ne m'a pas donné les cartes. On ne cherche pas à savoir l'origine du conflit.
Eh bien, voilà, vous venez de le dire, Jimmy, on ne peut jamais la trouver, l'origine du conflit. Puisque finalement, ça peut être n'importe quoi. Il m'a regardé de travers et tout. On peut interpréter. Et en fait, le simple fait de penser que l'origine est de l'autre côté, eh bien, c'est ça le début de la violence. Donc, si nous, nous voulons enseigner la non-violence à nos enfants, cessons de chercher qui a commencé. Il n'y a pas qui a commencé. Il y a une responsabilité conjointe de deux êtres. Et donc, on peut discuter. Quand ils sont suffisamment grands, on va parler avec eux de ce qui se passe. Tiens, il y a énormément de bagarres en ce moment. Parce que ça aussi, ici, il y a beaucoup de bagarres.
C'est parce qu'ils sont fatigués, parfois, vous dites aussi.
C'est parce qu'ils sont fatigués. C'est parce que un de leurs besoins affectifs n'est pas rempli.
Par exemple ?
Ou alors, peut-être, il y a une grand-mère qui vient de mourir, et il y a le chat qui est malade. Il peut se passer toutes sortes
une
de choses.
Une contrariété, quoi, en tout cas.
Une contrariété. Il y a un stress, un facteur de stress. Quelque chose occupe leur cœur, leur fait mal, et du coup, eh ben, ça excite le stress. Et le stress dans l'organisme, dans le cerveau, ça va déclencher attaque, fuite ou immobilisation. Souvent, l'attaque. Et l'attaque, c'est la meilleure façon pour l'organisme d'arriver à survivre correctement. Donc, c'est la voie de la santé.
Est-ce qu'il faut les forcer à se réconcilier ? Souvent, je leur dis, fais un bisou à ton frère. Dis-lui que tu
faites
l'aimes,
faites la paix,
et puis on n'en parle plus.
Ah, ça ne s'appelle pas forcer à réconcilier, ça s'appelle forcer à continuer à faire les bagarres dans le futur.
Et vous avez tout
forcer à accumuler de la rancune. Donc, ce n'est pas forcément une très bonne idée, mais accompagner les enfants jusqu'à la réconciliation, oui, bien sûr.
Ah, moi, je fais pareil. Je leur dis, faites-vous un bisou. Allez, stop, on n'en parle plus. Allez, tout le monde, fait un bisou à tout le monde. Ben, on est nuls, en fait, comme parents, je crois.
Bah, c'est pas une question d'être nul.
C'est
une question
super nul, Mélanie. Voilà, c'est ça.
Vous n'aviez pas encore lu le bouquin, frère et
sœur.
Voilà,
ça ira mieux après.
Voilà, à la fin, il y a un petit truc pour les parents aussi, pour savoir comment réagir dans ces cas-là. Et puis, savoir à quel moment intervenir, à quel moment ne pas intervenir. Quelquefois, c'est utile d'intervenir. Quelquefois, il vaut mieux pas. Mais quand on intervient, comment intervenir ?
Merci beaucoup Isabelle Fidioza d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et pour ceux donc, qui ont des problèmes dans la fratrie chez eux, je rappelle cet outil très pratique pour les 5-12 ans, les cahiers Fidioza, frères et sœurs chez Nathan Édition. Merci encore Isabelle.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. À présent, il est temps de vous faire du bien, de prendre soin de votre apparence avec vous, Benjamin Lévesque, comme dorénavant. On porte un masque, le regard est très important et vous allez cette semaine nous aider à nous débarrasser de nos cernes.
Remarque, on se met bien de la crème pour les hémorroïdes sur les cernes.
Alors, avant d'en arriver là, il y a d'autres solutions. D'abord, il faut savoir que la peau à ce niveau-là est extrêmement fine. C'est pour ça qu'elle vieillit beaucoup plus vite et que l'on a des cernes. Alors, il y a plusieurs types de cernes. Le premier, ce sont les poches. Et dans le cas précis, la seule solution, c'est la chirurgie esthétique. Et deuxième type de cernes, eh bien là, c'est quand on a des plis sous les yeux. Et pour les camoufler, eh bien, on va pouvoir lisser la peau grâce à un laser, comme l'explique le docteur James Kinasi, médecin esthétique à Paris.
Ce laser au niveau des cernes est intéressant parce qu'en fait, il ne va pas affecter la peau en superficielle, donc ce qu'on voit, il va affecter les tissus sous-jacents, donc juste en dessous de la peau. Il va aller chauffer en fait la peau pour entraîner la contraction de certaines cellules qu'on appelle des fibroblastes qui vont synthétiser eux-mêmes du collagène. Et le collagène, par définition, c'est l'effet tenseur de la peau. Avec très très peu d'éviction sociale, c'est-à-dire qu'on peut avoir un petit gonflement pendant 24-48 heures et le but étant en fait de créer des micro-puits à la surface de la peau pour aller stimuler la synthèse de collagène et donc donner un peu plus de tension à la peau et donc moins de plis sans passer par les injections sur des zones où on ne peut pas injecter.
Et puis, dernier type de cernes, ce sont les creux. Là, on va pouvoir combler cette transparence de la peau grâce à des injections d'acide hyaluronique. Et c'est ce qu'a décidé de faire Emmanuel avec le docteur James Kinasi. Reportage.
Alors, vous me répétez juste un petit peu ce que vous souhaitiez faire ?
Ça serait pour combler un peu le creux au niveau du cerne, parce que j'ai l'impression d'être plus fatiguée du coup.
Ok, ben on va commencer les injections. Je vous laisse vous mettre en place, on va faire une première désinfection, un démaquillage, et puis je vais sortir les produits, et puis je vous expliquerai un peu comment ça va se passer. Je vais vous prendre des petites photos.
Docteur, pourquoi est-ce qu'on fait justement des photos avant la séance ?
C'est surtout pour que la patiente se rappelle de comment elle était avant. On a souvent après des retours de patientes derrière qui nous disent « je ne me rappelle plus comment c'était avant, j'ai l'impression de plus rien avoir » et quand on leur montre le avant-après, c'est toujours très intéressant d'avoir un cliché initial. Donc là, je suis à l'extrémité du cerne, tout en haut. Je suis bien en profondeur, avec une aiguille classique. C'est en me retirant tout doucement. Ça va, Emmanuel ?
Très contente, pas douloureux, honnêtement. Tout de suite, ça change. Quoi. J'ai l'impression d'avoir dormi 10 heures de plus. Merci beaucoup pour ce beau résultat.
Avec plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Et comme toujours, la piqûre, eh bien, ça coûte de l'argent et c'est en moyenne 400 € l'injection.
Benjamin, qu'est-ce qu'on peut faire contre la couleur ? Vous savez, les yeux de panda, un peu comme Jimmy Mohamed. C'est des méchants, non ? Des petites cernes, des cernes ou nettes.
Eh bien, pour les yeux de Jimmy Mohamed, eh bien, dans ce cas-là, on va utiliser... Eh bien, nos produits cosmétiques hein, pour camoufler nos cernes. Le plus classique, c'est d'utiliser de l'anti-cerne. Mais encore faut-il bien choisir la couleur de teinte, comme l'explique notre maquilleuse professionnelle, Faustine Léa-Violo.
L'anti-cerne va avoir une couleur qui va atténuer la couleur du cerne. Donc si par exemple, on va dire que moi je suis une femme d'une quarantaine d'années blanche, avec la peau plutôt claire et des cernes qui vont être plutôt bleutées ou violacées, je vais aller plutôt vers un anti-cerne qui va être abricoté ou qui va avoir une petite pointe de jaune à l'intérieur pour venir casser la couleur du cerne justement. Si la peau est plutôt foncée ou métissée, s'il y a du bleu à l'intérieur, on va mettre du rosé et du brun, ça va être plutôt de l'orangé justement. Et si ce sont des cernes rouges, violacé, là ça va plutôt être du beige ou un pigment avec une base de jaune dedans, avec une pointe de jaune.
Et alors, et si avant de partir au travail...
Attendez. On va demander à Jimmy si déjà il est convaincu. Ça vous donne envie, l'anti-cerne, là, tout ce qu'elle a décrit
Oui, parce que honnêtement, ouais. C'est vrai que j'ai une tête de panda, j'ai l'air tout le temps fatigué.
Vous êtes très mignon, il n'y a pas de problème. Mais vous avez mignon, un peu mignon, des valises.
Un peu quand même. Ma femme nous écoute quand même.
c'était tout à fait.
Oui, mais je pense que Jimmy n'a pas d'anti-cerne chez lui. Alors non. Justement, j'ai quelques solutions pour vous, Jimmy. Vous vous rendez compte que vous n'en avez plus dans votre salle de bain. Eh bien, pas de panique. Il reste les recettes de grand-mère, les fameuses. Vous pouvez appliquer un peu de rouge à lèvres sur vos cernes, ça marche, je vous l'assure. Et puis sinon, eh bien, la fameuse cuillère gelée, hein, avant de vous coucher, vous mettez 2 cuillères au frigo et le matin, eh bien, vous les posez 10 minutes sur les yeux et après, adieu les cernes et les poches sous vos yeux, Jimmy.
Je vous imagine bien avec des petites cuillères avant d'aller faire votre chronique en matinale.
Benjamin, je vous
ça serait
promets
magnifique.
Que je ne le ferai jamais de ma vie.
Mais si, il faut essayer une fois dans
sa vie. Merci beaucoup Benjamin Lévesque et bien sûr Jimmy a tout noté, merci.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Alors toujours à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie.
Alors aujourd'hui, on va répondre à cette question d'Anne-Laure. C'est Jimmy qui va nous la lire. Ah non, on va même... Vous savez quoi ? On va l'écouter parce qu'on a une question sonore aujourd'hui.
Moi, j'avais une question particulière. Voilà, mon copain m'a avoué préférer plutôt être dominée au lit. Pour moi, j'ai toujours pensé que voilà, un homme se devait d'être dominant et une femme dominée. J'ai trouvé ça assez particulier. Voilà, j'ai eu une petite réticence. Vous, qu'en pensez-vous ?
Catherine, c'est une question pour vous. Alors, pour débuter, important de rappeler.
Ah bon ?
Mais oui, voilà, c'est pas pour nous. Jimmy ne saurait pas y répondre. Vous seriez bien embêté, non, Jimmy ?
Oui, complètement. Allez-y, posez la question à l'experte.
Alors, Catherine, pour débuter, important de rappeler qu'au lit, non, l'homme n'est pas toujours le dominant et la femme le dominé. C'est pas obligatoire.
Non, mais d'abord, il faut définir ce que ça veut dire dominant et dominé. C'est-à-dire que ça n'est pas une autorité de l'un sur l'autre. C'est qui va mener le jeu. Et l'excitation, quand on est dominé, peut être tout aussi forte. Et dominé dans la symbolique, peut-être tout aussi forte, et jouer à être dominé, c'est déjà une posture dominante. C'est-à-dire, je te contrains à jouer un rôle qui me permet de te guider, de te coincer en quelque sorte dans ce rôle-là. Alors du coup, on a un peu imaginé, tendance à penser que les hommes sont dominants, ils arrivent avec un projet, les femmes le subissent, ce qui était un moyen d'ailleurs pour les femmes de ne pas se sentir coupables de leur désir et de leur sexualité, tant elles n'étaient peu accueillies par la société. Ceci étant, bien évidemment que c'est un équilibre avec deux désirs qui s'expriment et qui profitent de tous les jeux où on est dessus-dessous, où on est plus actif, moins actif, chacun à notre tour, au sein du même acte ou dans des actes différents.
Mais pourquoi le copain d'Anne-Laure a mis du temps avant d'avouer son fantasme ? Ça reste quelque chose de tabou chez les hommes, le fait de vouloir être dominé, entre guillemets.
Oui, parce qu'il y a, pour l'homme, c'est ou d'abord parce qu'on imagine que c'est le rôle féminin, mais surtout parce que c'est un rôle enfantin. Parce que quand on est enfant, le plaisir que l'enfant, petit garçon, a avec sa maman dépend de la toute-puissance maternelle. Et donc, se dire être excité par quelque chose qui met une position dominée plus en évidence, c'est renvoyer à quelque chose d'extrêmement archaïque dans sa construction et souvent donc pas suffisamment assumé, viril, adulte, etc.
Bah, dit comme ça, c'est vrai que c'est un peu bizarre, non, de ouais. se dire que le fait d'être dominé, ça renvoie à la position dominante de la maman quand on était enfant. Ça sous-entend presque que ce ne serait pas tout à fait normal ou sain, en fait.
En fait, vous savez, nous avons dans notre sexualité des choses qui viennent de là. Hein. Ce n'est pas très agréable d'y penser, ou en tout cas, surtout dans l'acte sexuel lui-même, bien évidemment. Mais il faut
mettre un peu mal à l'aise, oui.
Voilà. Mais il faut comprendre que notre sexualité, elle se construit de toute façon dans nos premiers élans amoureux et nos premières relations tendres, câlines, et donc avec maman, pour les garçons comme pour les filles, et également avec papa, etc., sans que de la sexualité à proprement parler soit en jeu.
On va changer de sujet, papa, maman. On va passer à Anne-Laure qui, malgré tout, dans cette question, a l'air surprise, a l'air un peu... Ça a l'air de la déranger un peu quand même. Ça peut déranger une femme qu'un homme veuille être soumis comme ça.
Oui, ça peut la déranger parce que ça peut la renvoyer justement à l'obligation d'être plus proactive et plus mise en avant dans son expression de désir. C'est-à-dire que là, nous étions en train de parler de ce que ça pouvait vouloir dire pour lui, mais ce qui la dérange, elle, c'est qu'elle est obligée d'avoir une position, de prendre les choses en main. Et pour elle, ce peut être angoissant parce qu'elle est trop exposée, son désir est trop exposé, alors qu'elle préférerait peut-être qu'il soit caché derrière les volontés masculines.
Dernière petite question, Jimmy.
Surtout qu'être dominé, enfin en tout cas soumis tel qu'elle le dit, ça ne veut pas forcément dire une histoire de BDSM, d'être attaché,
non,
d'être... Voilà, on peut être
d'être
soumis
soft,
au lit,
hein,
voilà, ça peut être un peu soft.
Absolument. Par exemple, il y a des hommes, dans ce cas-là, qui vont aimer une position où la femme est sur eux, et plutôt extrêmement directive, active, par exemple, sur la position où la femme est assise sur l'homme, alors que d'autres hommes, au contraire, c'est extrêmement anxiogène et ils débandent. Donc voilà, c'est pour vous dire que la position de domination est toute relative, parce que ce n'est pas parce qu'il y en a un dessus et l'autre dessous qu'il y a un dominant et un dominé. C'est une vue de l'esprit. Selon nos histoires personnelles, on a une aisance ou une inquiétude où on suppute une position de domination ou de soumission selon nos histoires personnelles. Donc en fait, c'est ça qui est compliqué. Quand on fait l'amour avec quelqu'un, on va faire l'amour dans la même position avec deux personnes et ça ne racontera pas les mêmes choses. Prenons le cas d'une fellation. Une fellation peut être perçue par une femme comme étant une soumission et par une autre comme étant une domination, puisque justement, elle va diriger ce pénis dans son érection et dans son éjaculation. Donc c'est vraiment une vue de l'esprit. Il n'y a pas de règle qui identifie une posture comme étant plus dominante ou plus dominée. C'est une histoire personnelle.
Eh bien, je crois que c'était très clair. Merci beaucoup, Catherine, pour toutes ces précisions. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec leur rendez-vous. C'est historiquement vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour, messieurs.
Bonjour, Mélanie. Comme chaque Bonjour, jour aujourd'hui, dans Historiquement vôtre, trois personnages, Stéphane, trois personnages a priori très distants dans le temps, dans leur hobby. Et puis finalement, ils ont un point commun. Ils sont verts, les écolos avant l'heure.
Ah mais on va apprendre des choses incroyables dans cette émission. Karl Marx était...
Karl Marx.
Oui, il est rouge, mais il était vert aussi.
Ah oui. Oui.
Souvent, ça va ensemble. Et alors, il était vert, un des pionniers de l'écologie. Et puis, Louis de Funès, eh ben, il cultivait son jardin. Il adorait. Pas de pesticides, pas d'engrais chimiques, rien.
Et savez-vous d'où vient l'expression, vous qui faites ça dans l'émission, les fins mots de l'histoire, d'où vient l'expression « être vert de rage » ? L'incroyable Hulk. Je vous en parlerai tout à l'heure, même si c'est pas de là que ça vient.
Mais c'est fabuleux, évidemment. On sera à l'écoute avec le docteur Jimmy Mohamed et vous aussi, surtout. Restez sur Europe 1.